Bonjour. Bonjour et bienvenue à l'église ce matin. Je crois que pour certains, c'était un peu un parcours d'obstacles pour venir ici. Le CERN fait ses portes ouvertes et régule le trafic de manière un peu embêtante pour les Mérinois et les autres qui veulent passer. Mais on va quand même commencer. D'ailleurs, avant de commencer, j'ai une petite annonce. Justement, Fanny, qui s'occupe de la garderie, est coincée dans les bouchons. Et puis donc, il n'y a personne pour la garderie pour le moment. Alors, est-ce que quelqu'un aurait à cœur d'être là jusqu'à ce que Fanny arrive pour les petits? Oui? Ah, merci beaucoup. Super. Donc voilà, pour les tout petits, 0 à 3,5, vous pouvez aller à la garderie. Et puis, on garde les enfants avec nous pour ce moment de début de culte. Alors voilà, je vous souhaite la bienvenue ce matin, que vous soyez réguliers, visiteurs, essoufflés, heureux, en deuil. Voilà, on est tous là réunis pour un moment de culte ensemble, un moment qu'on met à part pour le Seigneur dans notre semaine, où on fait une petite pause. Les personnes qui m'ont accompagnée ce matin, on est 10 à avoir préparé ce culte. On a David Junkan et Christophe Podvika à la sono et à la projection. David Porter, Charline, Anne-Claude, Jean-Christophe à la louange, merci. Johnny, qui a préparé la Sainte Cène et qui a voulu sonner la cloche, mais ma foi, la chapelle est fermée, on n'arrivait pas à rentrer. Donc voilà. Claude Parnigoni à l'accueil. Et puis Sylvain Dupertuis qui apportera le message. Et moi-même, Séverine. Voilà. Avant de commencer notre culte, je vous propose justement de faire une petite pause. On va écouter un morceau de musique, histoire que chacun puisse se recentrer, déposer la semaine et être disponible. Seigneur, merci pour ce temps qu'on peut mettre à part pour toi dans la semaine. Merci d'être là au milieu de nous. Merci pour tous nos frères et sœurs en Christ qui sont là. Je remets cette matinée. Merci d'être présent au milieu de nous. Et ma prière, c'est qu'on puisse être vraiment à ton écoute et qu'on puisse être touché par quelque chose ce matin, qu'on puisse mettre en pratique dans notre vie avec toi. Amen. Alors, je vais commencer pour vous dévoiler le thème de ce culte par une devinette. Les enfants, c'est aussi pour vous. Est-ce que vous savez quel est le point commun entre Sylvain et moi? Voilà. On a un point en commun. Non, on en a sûrement plusieurs, mais notamment un. Qu'est-ce que ça pourrait être? Être prof, maître d'école, d'accord. Autre chose? La mission. Né le même jour. Pas la même année. Je suis plus âgée. Alors la mission, c'est on s'en rapproche. Pardon ? Le Laos, voilà. Merci Paul Robert. Le Laos. Le lien entre Sylvain et moi, c'est le Laos. Alors moi, je n'y ai jamais mis les pieds. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à deux personnes qui ont été au Laos. Mes grands-parents, Armand et Heidi Heiniger, qui sont là derrière. Et puis Sylvain, ben, c'est le point en commun, c'est que Sylvain a aussi travaillé au Laos et qui a très à cœur ce pays. Alors, les enfants, le Laos, qu'est-ce que c'est ? Un pays, bravo. Il se trouve où, ce pays ? Vous savez où il se trouve ? Sur la planète, où est-ce que ça se trouve ? Est-ce que c'est en Europe, en Afrique, en Asie ? En Angleterre, non. Non plus, pas en Suisse. Ah ! Alors en Amérique, non, pas en Amérique. Oui, le Laos, c'est un pays qui se trouve à côté du Vietnam, exactement. Et le Vietnam se trouve où alors ? Sur quel continent ? En Asie, bravo. Donc le Laos, pour les enfants, c'est un pays qui est en Asie. Et il a comme voisin le Vietnam, un autre pays. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont voisins avec le Laos ? Ça, c'est aussi pour les adultes, hein, parce que la Thaïlande, bravo, c'est juste. Cambodge. Vous en avez cinq. Donc, on a Thaïlande, Cambodge et Vietnam. Birmanie, bravo. Et la Chine. Voilà, donc cinq pays qui font la frontière. Et puis, est-ce que vous savez dire bonjour en laotien ? Sylvain, il va falloir que tu viennes. Moi, j'ai des souvenirs, mais... Alors, Sylvain va nous apprendre à dire bonjour.
Oui, alors, ce n'est pas difficile. Je pense que vous allez pouvoir le dire tout de suite. On dit « sabaidi ». Sabaidi. Mais en fait, on ne dit pas seulement... Parce que normalement, on fait un geste avec. On dit « sabaidi ». On fait un geste avec les mains. Sabaidi.
Voilà. Voilà. Alors, Sylvain a aussi apporté quelques choses qui viennent du Laos, qu'il va vous présenter.
Alors, est-ce que vous avez une idée ? Vous avez une idée de ce que c'est que ce truc que je tiens à la main ? Hein ? Non, c'est pas du pain. Oui ? Tu as dit pour cuire le riz. Oui, c'est juste, c'est pour cuire le riz. Alors, le riz, on le met où ? Dans le panier. Puis on fait comment pour le cuire ? Le riz, là-dedans, on met de l'eau et dessous du feu. Et voilà, c'est comme ça qu'on cuit le riz et les gens, c'est souvent les dames qui le font, mais ils se lèvent des fois à 4 heures du matin pour cuire le riz pour toute la journée, comme ça. Et après, la journée, si on va travailler dans les champs, on met le riz dans un petit truc comme ça. Celui-là, il lui manque la ficelle pour le tenir à l'épaule. Et puis, on peut avoir son riz parce que c'est du riz. Ça, vous aimeriez beaucoup parce qu'il se mange avec les mains. Voilà, on fait des boules avec les mains. Et non seulement les enfants aiment bien le manger avec les mains, mais les enfants l'aiment beaucoup, ce riz, parce que c'est du riz qu'on appelle du riz gluant. Voilà, un petit écho du Laos.
Puis alors, c'est un riz magique parce qu'en fait, il colle entre lui, mais pas aux doigts. Et il paraît qu'au Laos, pour être une femme épousable, on doit savoir faire un riz qui ne colle pas aux doigts, mais qui colle entre lui. Voilà. Ça, c'était pour la petite minute culturelle. Et puis, avant de passer à la louange, ben justement, je vais vous proposer donc, aux enfants, au mois d'octobre, je vais co-diriger un camp culinaire. Voici le lien avec le Laos. Donc, on va partir à Rougemont pour faire un camp autour de la cuisine du monde. Et puis, je vous montre un petit clip pour vous faire envie. Alors, voilà.
Les passagers à destination... destination du camp Minichef à Rougemont sont priés de se diriger vers la porte d'embarquement.
C'est toi qui fais ou c'est Christophe?
Non, c'est
les passagers à destination du camp Minichef à Rougemont sont priés de se diriger vers la porte d'embarquement H3. Merci de vous munir de votre passeport et de votre billet d'avion. Nous allons procéder à l'embarquement.
D'accord. On fait plus tard? Ok. Alors, notre pasteur nous dit qu'on le partagera sur la page web et puis sûrement qu'on le verra plus tard. D'accord. Enfin, c'était donc la semaine des vacances d'octobre. Je donc co-dirige le camp avec Joanne Rocha. Et puis, on a une équipe de moniteurs incroyables et on va voyager autour du monde à Rougemont. Les enfants vont cuisiner, vont participer à élaborer des repas, des recettes. Voilà, en toute créativité aussi, puis on va découvrir des pays à travers le culinaire. Donc si ça vous intéresse, ben, vous pouvez vous adresser à moi. L'âge, c'est 6-12 ans. 6-12. Donc toutes les informations sont sur le site internet de la Ligue. Voilà.
Voilà. Pendant que les enfants sont encore là, je vais quand même vous montrer 2-3 photos du Laos pour vous montrer comme c'est beau. Et puis... un tout petit peu photo vidéo de ce qui se passe maintenant, parce que l'actualité, c'est qu'ils ont des monstres inondations dans les endroits justement du sud du pays où on travaille. Alors, on n'en parle pas beaucoup ici, mais il y a beaucoup d'inondations ailleurs dans le monde. Donc voilà, quelques petites photos. Je vais faire comme ça. Je vais remettre, puis là, ça devrait normalement. Voilà. Ah, ça, je suis sur les inondations, oui. Je vous montre les inondations d'abord. Voilà, ça, c'est des inondations aujourd'hui. Là, j'ai trouvé ces photos vues d'avion. De différentes régions où il y a vraiment des plaines entières qui sont toutes inondées. Alors c'est des choses qui arrivent, hein, c'est pas la première fois que ça arrive, mais cette année c'est particulièrement violent. Maintenant, pendant que je suis là-dessus, j'essaye d'avoir juste une petite vidéo qui date d'il y a une semaine. Alors... Voilà, je montre juste un petit extrait comme ça. C'est des gens qui sont en train d'aller essayer d'aider les gens, justement dans la région de Songkhon, où la mission au Laos, la mission suisse au Laos, a commencé il y a un peu plus d'un siècle. Donc c'est ce dont je vous parlerai un peu après. Et quand même, pour voir quelques... quelques images, voilà, quelques images du pays, sans autre commentaire. Voilà le riz qui est la base de la moisson. La pêche. Voilà. Là, je vous ai mis une photo de ce monsieur parce que je vous en parlerai tout à l'heure. C'est une personne qui a, j'y reviens, qui était ophtalmologue et qui est un exemple pour moi. Voilà. Alors là, dans les rivières, hein, les enfants se font beaucoup plaisir là-bas. Voilà, un village de montagne, et je crois que c'est, oui, il y en a encore une ou deux. Voilà, ben il fait chaud là-bas, hein, on n'a pas froid dans les rivières. Et la dernière, c'était une action d'éducation dans un endroit où, après l'école, il y avait des activités très dynamiques pour que les enfants aient, apprennent mieux à lire et s'intéressent, à lire, à s'instruire, etc. Voilà.
OK. Donc, c'était la petite introduction pour dire que le thème d'aujourd'hui va être sur le Laos et sur la mission. Comment est-ce que nous aussi, on peut être missionnaire. Alors, je vous invite maintenant à un moment de louange. On va commencer par un chant que les enfants connaissent, Enfants de la terre.
Sois le feu.
L'Éternel se tient sur un trône élevé.
Merci. Je vais prier pour remettre les enfants. Après, vous pourrez partir à l'école du dimanche. Seigneur, merci pour les enfants que tu nous confies. Merci aussi pour les moniteurs qui ont à cœur de témoigner auprès des enfants. Je te remets cette matinée. Merci de bénir chacun. Que chaque enfant puisse se sentir aimé et accompagné dans son quotidien, ainsi que les moniteurs. Amen. À tout à l'heure, les enfants. Tu veux y aller.
Voilà, bonjour. Alors, j'ai le plaisir, même si ça me stresse un peu, de vous parler du Laos. Voilà, c'est un pays que je connais depuis longtemps, donc je vous raconterai un petit peu l'histoire de la mission dans ce pays. Et puis, dans une deuxième partie, après deux nouveaux chants, on aura une brève méditation sur notre mission aujourd'hui. Alors, c'est vrai, c'est une occasion de partage, et si je vous parle du Laos, c'est quand même très en lien aussi avec mon vécu personnel. Je suis arrivé à l'église évangélique de Mérin en 1984, un petit vaudois émigré en terre genevoise, mais qui a fait pas mal de milliers de kilomètres entre les deux, puisque le parcours, il a passé par le Laos et la France. Alors, quand j'étais enfant, jeune, j'ai vécu ma foi dans une petite assemblée, toute petite assemblée de campagne à l'autre bout du lac, dans la plaine du Rhône. J'ai fait des études de maths, je suis devenu prof de maths. Et puis, en 1972, je me suis marié et on est parti pour le Laos. Voilà, ça a été un premier séjour qui est une période d'apprentissage et de découverte, hein, d'un peuple vraiment attachant. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un échange. Et on était là-bas pour rester, on ne savait pas combien de temps, mais à cette époque, on partait pour 4 ans, en principe. Mais 3 ans après, ça a été la fin de cette forme de mission, de cette forme de présence missionnaire, à cause des événements politiques. Je vais vous raconter ça plus en détail tout à l'heure. Ça a signifié un retour en Suisse. C'était un déchirement de quitter ces gens qu'on avait appris à aimer. Puis, 7 ans de travail parmi les réfugiés en France, parce qu'il y avait plein de réfugiés du Laos, du Vietnam, du Cambodge qui arrivaient en France. Il y en avait 1 000 par mois. Et avec d'autres personnes, on essayait de faire notre possible pour aider ces réfugiés à s'intégrer, pour les mettre en contact avec des églises. Et voilà. Et en 84, on est rentré de France et Armand Heiniger nous a invités à venir travailler avec lui dans le bureau de la mission qui était à Bellevue. Et voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé à Bellevue, qu'on s'est installé à Bellevue et qu'on est venu rejoindre l'église de Mérin dont Armand Heiniger était pasteur à cette époque. Donc c'est grâce aux Heiniger qu'on est parti au Laos, c'est grâce à eux qu'on est revenu et arrivé ici. Arrivé à Mérin, je peux dire 2 choses sur le plan personnel. J'étais très reconnaissant d'arriver dans une communauté où j'ai trouvé une ouverture, une foi ouverte sur la diversité, une ouverture qui permet à chacun de penser, un engagement pour la collaboration avec les autres églises et avec les œcuméniques. Pour moi, ça a toujours été quelque chose d'important. Et puis cette ouverture sur le monde, avec une mission qui commence chez nous, mais qui dépasse nos frontières. Et puis une autre chose, c'est qu'il y a 20 ans et quelques jours, je partageais avec vous ce qui m'est arrivé de plus difficile dans la vie, quand après 27 ans de vie commune, mon épouse a décidé de continuer son chemin sans moi. Je suis reconnaissant d'une communauté accueillante et non pas jugeante quand on vit des circonstances comme ça. Voilà. Alors je reviens maintenant sur le Laos et l'histoire de ce pays où j'ai vécu 3 ans et demi. D'ailleurs, Joël est né quand on était là-bas. Bon, il est né en Thaïlande, mais voilà, il est né en 1975. C'était quelques mois avant qu'on doive partir. Alors, quelques moments de cette histoire qui a des liens, en fait, très étroits avec notre famille d'église, hein, qui a maintenant s'appelle Fédération romande d'église évangélique. Et c'est aussi une histoire qui illustre quelque part les fruits de l'Évangile, les fruits de la persévérance. C'est en 1902 qu'il y a un jeune couple, deux jeunes hommes qui avaient 24 ans, avaient la vision de partir en mission. Ils avaient entendu parler du Vietnam, ils voulaient vraiment aller dans un pays où on n'avait jamais entendu parler de l'Évangile. Et puis, ils sont décidés de partir au Laos. Alors, c'était vraiment incroyable, avec les moyens de l'époque, déjà pour arriver là-bas, arriver par bateau jusqu'au Vietnam, remonter le Mekong, sortir les affaires du bateau. Là, on ne pouvait pas, parce qu'il fallait passer par voie de terre. Bref, voilà, c'est vraiment une aventure. Et en fait, cette petite mission, voyez par quelques missionnaires suisses, c'est la seule mission francophone dans toute l'Asie, à ma connaissance. Il y a eu beaucoup d'autres missions, mais anglophones. 6 ans plus tard, c'est 1908, voilà qu'une terrible nouvelle arrive par télégramme en Suisse. Une épidémie de choléra s'était partie du Nord-Laos, descendue en 3 jours dans la ville, dans le village de Songkhron où travaillaient les premiers missionnaires. Et puis, Gabrielle Comtesse, qui s'était entre-temps mariée 2 ans plus tôt, ils ont essayé d'aider les gens comme ils pouvaient. Et dans la nuit de Pentecôte, la nuit du lundi de Pentecôte, tous les deux sont partis l'un après l'autre. Emportés tous les deux, il avait 30 ans, elle avait 28. Et quand la nouvelle est arrivée en Suisse, c'était bien sûr la consternation. Certains disaient, mais c'est de la folie de continuer. Et pourtant, plusieurs ont eu la conviction, d'autres personnes se sont levées pour poursuivre ce travail, et on voit que ce qui a été semé a porté du fruit qui s'enracine dans le cœur des gens. Alors il me semble que dans toute cette période, une chose qui a beaucoup frappé les gens et qui a permis à l'Église de prendre des racines, c'est que tout de suite on a traduit la Bible pour que les gens puissent avoir accès au texte fondateur de l'Évangile. On a voulu former des communautés autonomes. Et puis, la prédication a toujours été accompagnée par le soin aux malades. Au début, on n'avait pas les moyens médicaux d'aujourd'hui, mais ils faisaient comme ils pouvaient. Et puis aussi, l'accueil des personnes les plus rejetées dans la société, et en particulier tout un travail parmi les lépreux. Et on voit aujourd'hui à quel point ces actions qui ont été faites il y a un siècle ont encore des fruits aujourd'hui. Dans le sud du pays, il y a un endroit, dans une province, où l'église principale, ce n'est pas celle des grandes villes comme ailleurs, c'est celle où il y avait une léproserie autrefois. Voilà. Alors, je passe plus loin, on arrive à la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, le Laos faisait partie de ce qu'on appelait l'Indochine française. C'est-à-dire, c'était le Vietnam, le Laos et le Cambodge qui, depuis la fin du XIXe siècle, étaient des colonies françaises, pour faire bref. Alors, ça a été un premier ébranlement. Et à cette époque, toute cette région du monde a été envahie par les Japonais. Et c'était, pour l'Église et pour les missionnaires, c'était un isolement incroyable. Il y a d'ailleurs un missionnaire qui a été capturé par les Japonais, qui a fait 1 mois de prison, et c'est presque un miracle qu'il en soit revenu vivant. Voilà, c'est les témoignages de ce qu'ont vécu les gens à cette époque. Après la guerre, il y a eu un temps de redéploiement, où il y a eu davantage de missionnaires qui sont arrivés, parce que c'était quelque chose de très petit, tout ça, en fait. Un peu après 1950, il y a eu du renfort par une autre mission qui s'appelle maintenant OMF. C'était une mission qui avait plus de missionnaires en Chine. Et quand les communistes ont un peu pris le pouvoir, ils ont dû, en moins d'une année, c'est plus de 1000 missionnaires ont dû quitter la Chine. Alors, il y en a certains qui ont rejoint la mission évangélique suisse au Laos. Et en 1953, il y a un certain Armand et Heidi Heiniger, mais peut-être, on ne va pas les faire se lever, ou bien, mais vous les connaissez. Voilà. qui sont partis, qui ont été responsables de la mission, et je crois qu'ils ont aussi ouvert beaucoup de portes et de nouvelles choses. Ils ont en particulier entamé un véritable travail d'aide au développement, en particulier dans l'agriculture, où Armand, c'était sa profession initiale. Créé aussi une école biblique, qui aussi a encore beaucoup de fruits aujourd'hui. Voilà. Mais c'était aussi un temps de guerre et d'instabilité politique. Vous avez peut-être vu, je ne sais pas qui a vu, ou en partie, les reportages récents sur Arte sur la guerre du Vietnam. Est-ce qu'il y en a qui ont vu? Non? il y avait un très bon reportage, il y a des très bons reportages, c'est toute une série. C'était vraiment un affrontement entre l'Est et l'Ouest. Hein. C'est peut-être difficile de l'imaginer aujourd'hui pour ceux qui... C'est un affrontement Est-Ouest où les Américains voulaient à tout prix empêcher le communisme de s'étendre. Résultat des courses, c'est à peu près les seuls pays qui sont encore communistes aujourd'hui. Bref, affrontement par Vietnamiens interposés, qui a fait dans les 40 000 morts du côté américain, mais 2 millions du côté vietnamien. Et le Laos était aussi partie prenante de ce conflit, là je ne vais pas vous expliquer les détails, mais toute l'Indochine a été touchée. Et c'était aussi des temps difficiles pour la mission, d'ailleurs les Haniger pourraient vous raconter que comme c'était quand ils sont partis, ils n'étaient pas sûrs si c'était vraiment le moment d'aller au Laos, si la guerre allait s'étendre, etc. Voilà. Mais je saute pour arriver à ces événements de 1975, le grand chambardement. Les Américains qui soutenaient des régimes qui étaient en fait complètement corrompus pour lutter contre les communistes, ils ont fini par se rendre compte que c'était une guerre absolument sans issue et puis s'en retirer. Et du coup, la fin de ces régimes est arrivé brusquement. Le 17 avril, c'était la capitale du Cambodge, Phnom Penh, qui tombait. Et là, ça a été un événement absolument terrible parce qu'une ville de près de 2 millions d'habitants a été vidée en quelques jours. Les gens étaient renvoyés dans les campagnes et il s'est mis en place un régime autoritaire, le régime des fameux Khmer Rouges, qui a été absolument terrible et c'est un génocide qui a fait environ, on estime, à 1,7 million morts sur les 8 millions d'habitants du pays. Et j'ai apporté 2-3 exemplaires du livre de mon ami, le pasteur cambodgien Pat Kuhn, décédé l'année dernière, qui raconte comment il a échappé au Khmer Rouge à cette époque. C'est très poignant. Donc, 17 avril, Phnom Penh. 30 avril, Saigon, la capitale du Vietnam. Et peut-être 2 semaines après, à Paxé, où on habitait, on a vu des chars d'assaut qui arrivaient, mais on se serait cru au rameau, c'était plein de branches. Alors c'était la libération. C'était en tout cas censé être la libération. Mais je dois dire que nous, on ne se rendait pas bien compte de ce qui était en train de se passer sur place. Ni en Suisse, d'ailleurs. Mais assez rapidement, les autorités de la mission ont compris qu'on ne pouvait pas rester. On devenait d'ailleurs des dangers pour l'Église si on restait. Ils l'ont en particulier compris quand il y a des gens qui commençaient à dire, ils ne disaient pas directement à nous, ils le disaient à d'autres Laotiens, qu'est-ce qu'ils font encore là, ces Falang, c'est-à-dire ces étrangers qui mangent le riz des Laotiens? Voilà, alors quand on entend des phrases comme ça, c'est le signe que c'est le moment de partir. On est parti tranquillement, et bien sûr, c'était un déchirement. Mais la suite, ça a été des dizaines de milliers de personnes envoyées dans des camps de rééducation. Ça a été des centaines de milliers de réfugiés qui sont partis d'abord en Thaïlande, et puis ensuite en France, aux États-Unis. C'est pour le pays la perte de 80%, je pense, des personnes qui avaient des bonnes formations. Ça veut dire que c'est une saignée énorme. Et c'est un défi énorme de reconstruire un pays. Pour l'Église, un temps d'isolement complet. Les chrétiens étaient très surveillés. On n'a pas fermé les églises, mais c'était extrêmement... restreint et surveillé. Tout contact avec des étrangers était dangereux. Mais l'Église a non seulement survécu, elle s'est développée. Elle ne s'est pas développée par des actions d'évangélisation, elle s'est développée, ben je crois, simplement comme témoignage de la fidélité des chrétiens. Et pour la mission, l'organisation missionnaire suisse, c'était la fin d'une époque, la fin d'une forme de présence. Alors, quand on est rentré, on s'est demandé quoi faire. Et en particulier, Armand Heiniger et moi avions cette conviction très forte, même si cette mission est finie, on ne peut pas abandonner le pays. Et c'est vrai qu'Armand a fait une visite en fin 1976, c'est-à-dire juste une année après le début du nouveau régime. Moi, c'était l'année suivante. Et puis, chaque année, on visitait ce pays. C'était très restreint ce qu'on pouvait faire au début, parce qu'on était très surveillés, accompagnés par des gens du gouvernement, etc. Mais on avait quand même quelques fonds de pain pour le prochain avec qui on pouvait faire quelques dons. Et puis, on a des contacts, moi, je dirais qu'ils sont providentiels, parce que on voit la main de Dieu qui a ouvert des portes, des choses qu'on n'aurait pas pu faire par nous-mêmes. On avait une délégation de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui venait du pays chaque année. Ils n'avaient pas d'ambassade ici, c'est presque Armand Heiniger qui était leur ambassadeur du Laos pour les accueillir à l'aéroport, des fois les accueillir chez lui. Ils sont venus visiter notre bureau. Ils ont vu l'artisanat qu'on vendait pour soutenir les réfugiés. Ils ont vu tout ça dans notre bureau. Et ça a contribué à ouvrir des portes. Puis finalement, un beau jour, on a eu un contact avec des églises ménonites en France et un jeune médecin qui avait une vocation pour l'Asie. Puis on s'est dit, entre-temps, on nous avait demandé d'aider à construire un hôpital. On avait pu trouver des fonds pour construire un hôpital, mais il y avait besoin de pouvoir avoir du personnel formé aussi. Bon. On s'est dit, c'est peut-être le moment où on pourra envoyer des personnes, pas seulement faire quelques dons ponctuels. Ça a quand même mis 10 ans depuis qu'on a rencontré cette famille Klopfenstein, hein, ce couple, jusqu'à ce que quelque chose puisse se faire. Et finalement, une nouvelle forme de service, au nom du Christ, mais qui était seulement un service d'aide au développement, pas un service d'évangélisation ou d'église, a pu commencer en 1998. Et ça a été ce qu'on appelait le service fraternel d'entraide. On a donné un nouveau nom, voilà. Et puis, alors voilà un petit peu l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui? Des églises au Laos. Quand les missionnaires sont partis, c'était 15 000. Tout petit. Maintenant, c'est à peu près 10 fois plus, ou 8 à 10 fois plus. Là encore, pour moi, c'est une croissance, je dirais presque naturelle de l'Église, qui est l'œuvre de Dieu, et qui est le fruit de la fidélité et d'un évangile qui était enraciné dans les gens. Bien qu'on reproche aux chrétiens toujours d'avoir une religion étrangère, en fait, l'évangile s'est enraciné dans ce pays. On a des églises où les autorités soufflent le chaud et le froid. Parce que d'une part, ils peuvent avoir des libertés de faire des trucs qu'on n'imaginerait pas ici, comme à Vientiane, où ils ont fait un monstre rencontre avec musique d'évangélisation dans un stade. Et puis ailleurs, vous avez des gens qui se convertissent dans un village, et puis les villageois les chassent du village parce que ils ont peur que les esprits se vengent, parce que c'est des gens qui, dans les villages lointains, ont une religion plutôt animiste, alors que le reste est plutôt bouddhiste. Et puis les autorités politiques locales, ben, elles soutiennent la population, elles disent que ces chrétiens, ils viennent perturber la paix sociale, et ces gens sont dans des très grosses difficultés. Et il y en a encore tout récemment dans le sud du pays qui se sont convertis. Alors la police vient, leur pose toutes sortes de questions. Pour le moment, c'est que là. Mais voilà, c'est un petit peu une idée des difficultés que les chrétiens ont là-bas. Il faut aussi dire qu'ils sont aussi pas mal discriminés. Parce que si vous êtes chrétien, impossible d'avoir un poste à responsabilité comme fonctionnaire. Parce que si vous n'êtes pas du parti, c'est niet. Et si vous êtes chrétien, c'est contradictoire avec l'appartenance au parti unique. Alors, cette mission du service fraternel d'entraide, c'est actuellement, c'est une quinzaine d'expatriés, c'est une soixantaine de collaborateurs laotiens. Et j'étais en visite ce printemps, j'étais assez frappé de voir tous ces jeunes, ils ont une trentaine d'années, ils ont des jeunes enfants, là, ces nouveaux expatriés, on n'utilise pas le terme de missionnaire, mais voilà, ils sont là-bas au nom du Christ. Et ils sont très conscients de l'enracinement historique. Ils sont très conscients qu'ils marchent quelque part sur les pas de ceux qui autrefois ont apporté l'Évangile. Ils le font avec un service concret. Comme je vous disais, ce n'est pas de l'évangélisation, ce n'est pas un travail d'église, c'est l'église du Laos qui le fait. C'est un témoignage par le quotidien. Je vais peut-être juste quand même vous montrer, visualiser ça. Voilà, je vous montre juste quelques photos de notre équipe, comme ça, ça donne un petit tour concret à ce que voilà, font ces gens là-bas. Est-ce que j'arrive à descendre mon truc là? Ah! Voilà. Voilà, ça c'est notre directeur, c'est une famille française, vous voyez qu'ils ont des tout jeunes enfants. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Voilà, lui c'est un ingénieur allemand, puis il se trouve qu'il a rencontré cette infirmière des Philippines qui travaille avec nous, puis maintenant ils sont mariés. Voilà. Ça, c'est un médecin qui est envoyé par nos églises de Suisse, qui était de l'église de Villars à Lausanne, Arnold Probst. Voilà. Ça, c'est une dame américaine qui est venue nous aider pour un projet qui était en panne. On l'a recruté en un mois, alors que d'habitude, ça prend une année. Ça, c'était aussi un signe de Dieu, quelque part, face à une situation qui était difficile. Voilà, ça, c'est des Philippins, des Anglais, et de nouveau un couple mixte. Cette fois, c'est cette infirmière qui est allée travailler au Laos et puis qui a rencontré ce jeune homme. Et puis voilà, ils ont fait un temps en France, maintenant ils sont retournés pour un service au Laos. Pour le moment, ils sont avec le SFE, mais après, ils auront leur propre projet. Voilà. Alors, on peut fermer ça. Voilà. Alors, je termine cette partie-là en vous donnant deux mots qui sont pour moi le témoignage de ce monsieur qu'on a vu tout à l'heure, le docteur Pafik. Cet homme, il est né dans une famille non chrétienne. Il a connu l'Évangile et il a appris à le vivre comme un service avec le docteur Maddox. Le docteur Maddox, c'était un missionnaire, c'était un personnage assez extraordinaire pour moi, qui avait été longtemps en Chine, qui a aussi dû quitter la Chine, et puis qui a, entre autres, fondé un hôpital près de Savannakhet, voilà, avec des fonds de pain pour le prochain à l'époque et des collaborations œcuméniques. C'est là qu'il a appris non seulement à connaître l'Évangile, mais à connaître une manière de le vivre qui était vraiment un service aux autres. Et c'est, on le voit dans sa vie aujourd'hui. C'est, pour moi, c'est un exemple. Et puis, quand sont arrivés les communistes, il a été fermé, l'hôpital. Les gens, ils ont été un peu chassés. Lui, il aurait pu sans problème partir comme réfugié pour avoir une vie plus facile. Avec son épouse, ils ont décidé de rester au service de leur peuple. Et ils ont eu des pressions. On a essayé aussi même de leur offrir de faire d'autres études, mais il fallait quitter l'Église. Ils sont toujours restés fidèles. À un moment donné, il a été directeur d'un hôpital ophtalmique et il a été une des rares personnes qui a pu quand même avoir un poste à responsabilité comme fonctionnaire, si vous voulez, et être responsable dans l'Église. Et les contacts qu'on a avec lui depuis un certain nombre d'années, c'est un peu le pivot de la collaboration qu'on peut avoir avec l'Église. Alors, il a toutes sortes de problèmes de santé, hein, il faut qu'on prie pour lui. Mais voilà, pour moi, c'est un homme qui a une foi et qui la met en pratique au service des autres d'une manière qui est vraiment un exemple, et aussi par sa persévérance, parce qu'il en a vécu des choses difficiles. Et puis nous aussi, on est parfois dans des choses difficiles, mais la persévérance. Voilà. Alors, nous allons chanter encore deux chants avant d'un court partage biblique. On a parlé de mission. Est-ce que vous trouvez ce mot dans la Bible? ici. Où c'est que tu le trouves, alors?
Aller dans le monde.
Ah, mais ce n'est pas le mot mission. OK. Alors, effectivement, il n'y a pas le mot mission dans la Bible. Alors, pourquoi on parle de mission si ce n'est pas dans la Bible? Je dis pourquoi on parle de mission si ce n'est pas dans la Bible? Le principe, il est avec un mot. Envoyer. Envoyer. Alors, il y a le mot envoyer, puis il y a un autre mot qui ressemble dans la Bible, enfin dans le Nouveau Testament grec, mais qui ne ressemble pas en français. Il y a le verbe envoyer, puis un envoyé. Est-ce que vous imaginez un mot qui est synonyme de envoyer? Oui, mais dans la Bible, dans le Nouveau Testament, oui, mais en fait, c'est le mot apôtre. Parce que les apôtres, c'est des envoyés. Et c'est le même mot grec, en tout cas la même racine grecque que envoie. Voilà. Alors, on va lire un texte. Enfin, on va en lire deux, mais voilà. Le soir du jour de Pâques, tu peux venir, oui. Ça se passe le soir du jour de Pâques. Les disciples de Jésus se sont enfermés dans une pièce. Et tout d'un coup, Jésus apparaît parmi eux. Et puis il leur dit, la paix soit avec vous. Sans doute parce qu'ils avaient un peu peur. Et ça continue.
Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus répéta, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après cette parole, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » C'était dans Jean 20, versets 20 à 23.
C'est vrai qu'il y a peut-être le dernier verset, je ne vais peut-être pas le commenter, parce qu'il nous embête un peu, cette histoire de ceux à qui vous pardonnerez les péchés, parce que ce n'est pas notre rôle. Et tout le reste de l'Évangile nous le dit, seul Dieu juge. Je dis juste la note de la Tob, l'interprète ainsi, c'est parce que le message de l'Évangile, il peut être accepté ou reçu. Et le pardon de Dieu, il s'agit de le recevoir. Ce n'est pas juste un automatisme, c'est quelque chose qui recrée une relation. Donc il faut entrer dans cette relation. Voilà, alors, après ces mots, il leur montre ses mains. C'est bien celui qui a donné sa vie qui est ressuscité. Les signes de la faiblesse humaine sont encore là. En fait, il y a dans ce texte un espèce de mouvement. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Le Père envoie Jésus et Jésus envoie ses disciples. Alors j'ai mis nous parce que ses disciples, ce n'est pas juste ceux qu'on appelait apôtres, c'est vous et moi. C'est toutes les personnes qui deviennent disciples de Jésus. C'est ainsi que Dieu vient rejoindre ses créatures pour son action de salut dans le monde avec ses disciples. Et ainsi, la mission, ce n'est pas une activité annexe de l'Église, mais c'est le cœur même de son existence. Alors cette mission de Dieu, elle s'étend à tous les hommes, sans distinction. Elle est donc partout, mais elle commence ici, là où je suis. La mission, ce n'est pas non plus une entreprise de propagande pour une chapelle quelconque, bien que dans l'histoire, ça a été le cas, hein, et ça arrive aujourd'hui aussi, des entreprises en concurrence les unes avec les autres. Non, c'est un témoignage à Jésus-Christ, parce que c'est Jésus lui-même qui nous envoie. Puis Jésus souffle et donne le Saint-Esprit. Alors là, l'évangile de Jean, c'est intéressant parce qu'il condense en une soirée ce qui prend 40 jours dans les Actes. Parce que dans les Actes, on raconte l'envoi en mission, et puis après, il y a dans le livre des Actes, je veux dire, dans l'évangile de Luc, on raconte la résurrection, et puis dans l'envoi en mission. Mais ensuite, il y a l'ascension, c'est raconté dans les Actes, et puis c'est 40 jours plus tard qu'arrive la Pentecôte, et qu'il y a l'effusion de l'Esprit qui inaugure la mission de l'Église. Alors là, c'est rassemblé en deux versets et en une soirée. Mais c'est quoi ce Saint-Esprit? Alors, on peut voir dans le Saint-Esprit une sorte d'expérience spirituelle extatique. Alors, ça peut être ça, mais ce n'est pas l'essentiel. L'Esprit, c'est ce qui nous tourne vers les autres pour accomplir la mission de Jésus. Alors, c'est quoi ce « comme » ? Je vais ressortir un texte qui est très, très connu. Pardon pour la faute d'orthographe, je la vois maintenant. C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais s'il sert perd son goût, comment pourrait-on le rendre plus de nouveau salé ? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors. Et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support. D'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes et qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. C'est une affirmation. Bien sûr, vous êtes, mais c'est aussi une invitation et une interpellation. Ça veut dire que la mission que Dieu nous confie, elle s'incarne dans notre quotidien. À l'image de Jésus, où la bonne nouvelle se manifeste concrètement, alors on pourrait dire beaucoup de choses, mais voilà. Par quoi ? Par des actes de miséricorde. Par l'accueil des rejetés, l'attention spéciale aux personnes qui sont le plus vulnérables, le plus rejetées, le plus mal considérées dans la société. Par l'attention à chacun pour le remettre debout. On voit quand Jésus guérit des gens, ce n'est pas seulement une guérison physique, c'est les remettre debout dans la vie. C'est des actes de libération. Alors, on n'est pas très capable de faire ça, dans un sens. Mais finalement, on est appelé à ça quand même. On est simplement en chemin. Être disciple, c'est être en chemin, ce n'est pas être arrivé. Alors, ça touche beaucoup de choses en nous. Ça touche nos attitudes intérieures, d'abord, c'est-à-dire l'orientation fondamentale de notre vie, telle que Jésus l'enseigne, notamment dans les Béatitudes. C'est pour ça qu'on lit l'Évangile. Pour s'imprégner de ça. Ça touche à nos relations proches. Et puis des fois, elles ne vont pas aussi bien que ce qu'on espérerait. Puis ça touche aussi notre engagement dans la société, mais en particulier pour la justice, parce que je crois que c'est une chose très importante, pour une vie en commun où chacun a sa place, pour une société où tous sont accueillis. Puis la justice... Pour les gens qui sont au Laos, c'est un sacré problème, parce que c'est un pays où on paye des pots de vin pour tout. On paye des pots de vin pour s'inscrire aux études, on paye des pots de vin pour obtenir son certificat. Voilà. Comment il faut faire en tant que chrétien ? Mais nous, on en a d'autres. Parce qu'on n'a pas, pas autant de pots de vin. On en a aussi, mais voilà. Mais on a d'autres injustices qui sont à un niveau plus global. Dans notre système économique, dans la finance, dans les lobbies, on a beaucoup de choses qui sont très injustes. L'Évangile nous appelle à être témoins du Christ dans le quotidien, aussi bien avec notre voisin, notre famille, les gens qu'on côtoie au travail, que plus globalement dans la société. Alors, ce n'est pas une perfection morale qui nous est demandée, une perfection morale qui nous mettrait au-dessus des autres, parce que si on cherche ça, alors on ressemble aux pharisiens qui sont les gens contre qui Jésus s'est le plus insurgé. Mais ce n'est pas une perfection, mais c'est être en chemin avec Jésus pour refléter au quotidien la compassion de Dieu pour tous les êtres humains. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons passer à un moment de Sainte-Cène. La veille de sa mort, Jésus a demandé à ses disciples de se souvenir de lui en prenant un simple repas composé de pain et de vin. Aujourd'hui, nous célébrons le repas du Seigneur pour lui obéir, en voulant lui conserver simplicité et respect. La Sainte-Cène est d'abord destinée à faire mémoire. Nous nous rappelons la vie du Christ, sa mort, sa résurrection et la promesse de son retour. La Sainte-Cène, c'est aussi un repas en communion avec le Christ. En partageant le vin et le pain, nous renouvelons notre alliance à lui. Quelque part, nous nous donnons entièrement à lui. On pourrait même dire, on déclare qu'on est prêt à souffrir et mourir pour lui. La Sainte-Cène, c'est un repas d'unité. Nous déclarons que nous sommes tous unis sous sa miséricorde, avec notre Église locale, mais aussi l'Église à travers le monde. Selon une tradition des premiers chrétiens, le pain et le vin sont eux-mêmes des symboles d'unité. Parce que pour faire du pain, il fallait récolter des grains provenant de champs différents. On les cuisait et ensuite ça devenait une seule miche de pain. Et puis pour faire du vin, on vendangeait du raisin issu de plusieurs vignes. On le pressait ensuite pour qu'il devienne une seule boisson. Eh bien, il en est de même pour l'Église qui rassemble des gens issus de nombreux pays, nations, afin que tous deviennent un en Christ. Donc cette Sainte-Cène, c'est un repas d'action de grâce, une célébration de la victoire de Jésus sur le péché et la mort. Et par elle, nous proclamons sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Et pour l'institution de la scène, j'ai souhaité demander à Sylvain de la lire en laotien. On va vous projeter les paroles en français, même si je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent quelque part par cœur. Mais je vous invite à écouter cette langue magnifique.
Alors vous entendrez cette langue qui chante et qui sera prononcée dans quelques heures, parce qu'il y a en ce moment 5 heures de décalage horaire, par nos frères au Laos. Lavang ahan munan, pra yesu song chap khao chi ma, le mua kho pra pron leo, song hak khao chi nan, hai puok sa vok, doi song ka va, chong hap kin sa, ni le, คือการของเฮาคือกายของเฮาแล้วพระองค์ทรงจับเอาจอกมามุทนาพระคุณและยืนให้เขาโดยทรงกล่าวว่าจงดื่มแต่จอกนี้ทุกคนเพราะว่านี่แหละคือเลือดของเฮาแม่นเลือดอันเกี่ยวกับพระสัญญาที่ตอกออกเพื่อยกผิดบาปคนจำนวนหลายเฮาบอกตามทั้งหลายว่าเขาจะบ่ดื่มน้ำผลองุ่นต่อไปอีกจนกว่าวันนั้นมาถึงคือวันที่จะดื่มอันใหม่ กับพวกท่านในลาสาแผ่นดินพระบิดาของเรา
Alors j'invite les quelques personnes à qui j'ai demandé un coup de main pour la Sainte Cène de me rejoindre. Pendant ce moment de Sainte Cène, je vous invite à un moment de prière qu'on appelle communautaire, c'est-à-dire prière à haute voix pour ceux qui souhaiteraient. Vous pouvez partager un témoignage, une image, un verset, simplement une prière que vous avez sur le cœur.Et puis pour la Sainte Cène, alors on a du jus de raisin qui se trouve dans les gobelets violets, et puis du vin dans les petits gobelets autour. Et puis si vous souhaitez boire dans la coupe, faites signe et puis on viendra vers vous. Oui, merci Seigneur parce que tu es mort sur la croix pour nous et qu'en prenant ce pain et ce vin, on proclame non seulement ta mort mais surtout ta résurrection et ta souveraineté sur notre monde. Amen. On va passer au moment d'offrande. L'offrande, c'est justement un moment où... On peut redonner la générosité qui nous a été donnée. On peut peut-être la partager avec l'Église, pour que les locaux puissent tourner, mais aussi pour les différents intervenants et aussi nos envoyés. Et puis pendant ce moment d'offrande, nous aurons les annonces qui seront projetées. Joanne, c'est toi qui commente. Voilà, j'invite Joanne à me rejoindre. Charline aussi a quelque chose à dire. Et puis, voilà.
J'ajoute peut-être juste une annonce. J'ai oublié de dire, pour ceux qui aimeraient en savoir un peu plus sur cette histoire de la mission au Laos, j'ai apporté le livre que j'avais écrit en 2002 qui raconte cette histoire. Voilà.
OK, alors pour les annonces. Donc, comme je l'avais dit la dernière fois, attention avec les... talons aiguilles principalement qui poinçonnent le sol, qui est fragile. Merci de votre compréhension. Pour les projectionnistes, on recherche urgemment des personnes qui peuvent renforcer les rangs. Vous voyez que c'est important d'avoir les annonces qui sont présentées, que les champs soient affichés, que tout fonctionne bien. Et pour ça, il faut des personnes qui puissent s'investir et venir renforcer les équipes. Ensuite, le mémo donc, est disponible sur le site internet dans la partie membres. Nous allons avoir une série de 3 cultes. Ça tombe pendant l'offrande, c'est génial. c'est pas fait exprès. Mais sous moi et l'Église, on peut toujours se poser des questions sur l'argent et comment est-ce qu'on le donne, comment est-ce qu'on le partage. Ensuite, pour la chapelle, je crois que Paul Robert a peut-être 2-3 indications.
Oui, je me permets d'insister un petit peu. Voilà, nous arrivons sur le bout touchant de cette rénovation. Nous avons quelques petits retards à cause du plancher et des couleurs. On doit passer par les monuments ici et ça nous retarde un peu d'une semaine, 10 jours, en espérant que tout aille bien. Voilà, et c'est vrai qu'on aimerait mettre en place 2 équipes. Je vais juste un tout petit peu expliquer, ça serait plutôt dans le mois d'octobre que ces équipes seront, c'est 3-4, peut-être 5 personnes pour ce qu'on appelle le nettoyage final. C'est-à-dire qu'une fois que tout est fini, il faut donner un coup d'aspirateur, nettoyer un peu les vitres, donner un petit coup d'antipoussière, etc. Vous voyez, un chantier, ça... Voilà. Donc ces 3-4 personnes peuvent s'annoncer vers moi, on forme une équipe, et après ils sont libres d'y aller le samedi, le soir, le dimanche matin, après-midi, pour elles s'organisent ensemble pour faire cela. Et ça serait chouette que ce soit comme ça. Pour le reste, la peinture et d'autres petites choses, ça va se faire aussi fin septembre, début octobre. S'il y a quelques personnes qui sont un peu bricoleuses, qui aiment bien cela, voilà, elles peuvent venir vers moi et on les mettra au travail. C'est surtout pour la partie locale technique du bas. C'est une, deux personnes pour la peinture et différentes choses, plutôt dans le courant octobre aussi. Voilà, alors, si vous répondez, c'est super. C'est aussi participer un peu, pas qu'avec des sous, mais avec ses dons et son temps pour donner un coup de main pour cette chapelle qui, j'espère, sera aussi missionnaire.
Merci. Action Paquet de Noël. Vous pouvez vous renseigner vers Anne-Marie. Donc, c'est déjà tôt, mais faut y penser parce que ça vient tout bientôt. Anne-Marie, pour ceux qui ne la connaissent pas, peut-être tu peux juste te lever. Voilà, donc si vous avez de la laine à disposition pour tricoter des écharpes, n'hésitez pas à vous adresser vers Anne-Marie. Le dimanche 6 octobre, alors c'est dans 3 semaines, le culte sera suivi d'une séance d'information pour les nouvelles personnes qui sont là, qui ont plein de questions. On avait fait ça l'année passée, fin septembre, donc on reproduit ça cette année. Des informations sur l'Église, comment l'Église fonctionne. Donc si vous êtes intéressé, parce que vous êtes nouveau, vous êtes de passage, et que vous êtes intéressé à savoir comment fonctionne l'Église, vous êtes cordialement invité. En plus, ce jour-là, c'est le premier dimanche du mois, donc il y aura un repas canadien communautaire à la suite. Le camp mini-chef, avec la vidéo que vous trouverez certainement en ligne sur le site internet, et sinon sur laligue.ch.
Les passagers à destination du camp mini-chef à Rougemont sont priés de se diriger vers la porte d'embarquement H3. Merci de vous munir de votre passeport et de votre billet d'avion. Nous allons procéder à l'embarquement dans les prochaines minutes.
Ça, vous avez pu avoir le film, c'est très bien. Sortie des potes, le dimanche 29 septembre. On va à la ferme aux moutons, à Janto, chez les Cretenis. Donc, tous les potes sont donc cordialement invités. On assistera un petit peu au culte au début, et puis le programme va suivre plus précisément par email. Pour les parents qui n'ont pas d'email pour inscrire leurs enfants, venez vers les moniteurs pour vous annoncer, donc dimanche 29 septembre. Encore ? Il n'y a pas de petit film, non ? Voilà, donc ça c'est l'annonce qu'on a aussi vue avant, et puis je vais laisser la parole à Charline.
D'abord, je voulais juste rajouter un truc par rapport à la projection. Donc pour vous dire que c'est quelque chose qui n'est vraiment pas difficile à faire, juste appuyer sur un petit bouton. Et puis au début, on peut faire en binôme avec quelqu'un qui connaît déjà pour vous coacher. Donc vous inquiétez pas, vous n'êtes pas lancé comme ça avec une grande responsabilité, mais on vous accompagne. Et puis, au nom du groupe de jeunes, on voulait vous remercier parce qu'hier, on a eu notre vide dressing, vide grenier, brocante, je ne sais pas comment vous l'appelez. Et donc, c'était pour soutenir notre voyage missionnaire humanitaire qu'on va faire l'année prochaine en Roumanie. Donc, le programme n'est pas encore défini, mais on va partir avec Jem. Donc, on va partir l'été prochain. Et on voulait vous remercier parce que beaucoup, beaucoup d'habits et d'objets nous ont été donnés. Donc, ça, c'était vraiment. Ça fait chaud au cœur. Et puis, il en reste beaucoup. Donc, si vous voulez nous soutenir ou bien reprendre des choses, c'est en bas dans la salle du groupe de jeunes. Moi, j'y serai juste après le culte, si vous voulez venir faire un tour, voir ce qu'il y a. Il y a pas mal d'habits, et puis il y a aussi des habits pour les enfants, quelques jeux, voilà. Merci.
Seigneur, merci pour cette offrande. Merci parce qu'on peut redonner autour de nous ce que toi, tu nous donnes. Je te prie de bénir les personnes qui vont gérer cet argent pour que ça soit utilisé au plus nécessiteux et au plus urgent et au plus précis. Amen. Avant ce moment de bénédiction, j'avais juste envie, j'ai quelque chose que j'avais à cœur de vous partager, enfin de vous encourager. On a tous autour de nous des personnes qu'on a à cœur, quelqu'un qui nous touche, quelqu'un qui est peut-être dans le besoin, quelqu'un qu'on sait qui aurait peut-être besoin d'un petit coup de Jésus dans sa vie. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui de repartir de ce culte avec une petite mission. Pensez à une personne que vous aimez, qui est dans votre entourage, avec qui vous voulez passer voilà, à l'action cette semaine, par un geste, par un téléphone, par... un repas, n'importe quoi, mais voilà, que vous puissiez être témoin très concrètement cette semaine dans votre vie. Voilà, je vous lance un défi que je vais aussi relever moi-même. Donc voilà, Sylvain, je te propose de nous rejoindre.
Voilà, je vous invite à vous lever. Voilà, comme Dieu a envoyé Jésus, Jésus nous envoie à notre tour pour rejoindre Mérin, rejoindre nos voisins, rejoindre nos contemporains, et il nous promet sa paix. La paix soit avec vous dans toutes vos circonstances de vie, heureuses ou douloureuses. Amen.
Bon dimanche.